Bonjour Raymond Richard au micro, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Et pour cette émission, alors que, rappelons-nous, l'Église de France a proposé au CCFD de prendre en charge l'animation de la campagne de Carême, des campagnes de Carême, eh bien se posent toujours ces questions de développement, de partage. Et aujourd'hui, plus de 50 ans après le début du CCFD, et de ces questions de développement, nous sommes confrontés à une nouvelle réflexion. Parce que souvent, dans une économie mondialisée, on pose la question de la croissance, on pose les questions d'économie compétitive qui ont amené à délocaliser un grand nombre d'activités. Et la question de développement paraît d'autant plus importante à régler que ce n'est pas le développement de l'industrie qui a permis aux pays d'avancer, parce qu'on voit certains s'enrichir, mais une grande masse de population rester pauvre. Et le CCFD analyse dans différents pays ce qui se passe, et notamment aujourd'hui, je vous propose d'aller au Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un tout petit pays coincé entre l'Inde et la Chine, adossé à l'Himalaya, 750 000 habitants, qui propose une réflexion sur le bonheur national brut. Alors c'est intéressant et ça renvoie à notre propre histoire puisque au moment de la Révolution française, déjà des révolutionnaires avaient évoqué le droit au bonheur. Alors bien évidemment tout de suite ça a été effacé, oublié, mais tout de même en relisant Bonheur national brut, je me suis rappelé que cette réflexion sur le droit au bonheur existait et que peut-être il ne se mesure pas simplement en produit national brut. Et donc, dans la constitution du Bhoutan, il y a depuis 2008 de grandes enquêtes pour mesurer les différents paramètres de ce bonheur national brut. Alors, il y a le niveau de vie, la santé, l'éducation. Donc là, on retrouve les indicateurs traditionnels, produit national brut ou bien indice de développement humain, mais aussi utilisation du temps, bonne gouvernance, bien-être psychologique, vitalité communautaire, résilience écologique et culturelle. Donc, le Bhoutan apparaît comme une anomalie, une utopie. Et alors, ces populations en ont conscience. Je cite une personne du Bhoutan qui nous dit « Je suis très heureuse d'être née au Bhoutan, selon moi. Le pays est connu du monde entier. » Car il rend son peuple heureux. Et de fait, le roi du Bhoutan déclare en 1979 que le bien-être des populations est plus important que le développement économique du pays. Alors ça, c'est sur le plan des principes et des idées, parce que, en effet, la poursuite du bonheur est inscrite dans la Constitution. Je cite « L'idée de bonheur doit conduire la politique en général et les comportements en particulier » pour maintenir vivantes les valeurs de notre civilisation. La civilisation de ce pays est basée sur le bouddhisme et ce sont les valeurs spirituelles et culturelles de cette religion qui façonnent le modèle de ce petit pays. Mais il y a quand même de la pauvreté, il y a quand même des minorités qui n'ont jamais été intégrées dans la culture du Bhoutan et notamment les minorités népalaises, puisque le Népal est le pays voisin du Bhoutan. Et, par exemple, on oblige les Népalais dans ce pays à parler la langue traditionnelle du Bhoutan, à porter aussi le costume du Bhoutan. Donc, le bonheur national brut, c'est peut-être un concept utopiste, mais la mondialisation rattrape le Bhoutan. Mais pourtant, il y a tout de même des choses à prendre dans cette réflexion. Alors, quelques aspects concrets. Une délégation du CCFD a été étudier ce bonheur national brut dans une conférence internationale, mais aussi en visitant les villages des régions différentes du Bhoutan. Je cite « Notre mission, nous faire une idée du bonheur national brut en action dans la vie quotidienne des habitants. » Ici, je cite « Nous sommes sous un climat tropical avec ses bananes et ses oranges et visitons une centrale hydroélectrique. Nous côtoyons des troupeaux de yaks à 2900 mètres d'altitude. N'oubliez pas, nous sommes sur les contreforts de l'Himalaya. Ailleurs, nous participons à la récolte du riz rouge qui compose la base des trois repas quotidiens. Ce qui nous frappe, c'est la réalité d'un pays qui s'ouvre tout juste à la modernité. L'électricité a été installée il y a moins de 5 ans. Mais les nouvelles technologies se développent à vitesse grand V dans ce pays. Et ce que nous avons vécu chez nous en plusieurs générations, là-bas se vit très rapidement. Par exemple, les sachets de chips importés d'Inde ont remplacé les bols de riz sur les autels d'offrandes rituelles. Et donc, on perçoit qu'il est difficile d'être un îlot dans un monde mondialisé. Il y a un nouveau mode d'éducation. Le Bhoutan l'a introduit de façon très volontariste dans les écoles, afin, je cite, « de libérer les esprits des affres du matérialisme et de se préoccuper en profondeur des autres et de l'environnement naturel. » On enseigne aux enfants des compétences psychosociales, savoir communiquer avec les autres, prendre des décisions, gérer ses émotions. On travaille en petits groupes où les plus forts aident les plus faibles. On médite, on débat sur l'éthique, sur la géopolitique. Mais aussi, on jardine, on trie les déchets, on décide en assemblée d'élèves. Donc il y a bien tout un effort fait pour que cette réalité, bonheur national brut, ou en tout cas un développement autre, se développe. Mais on voit bien aussi que la recherche des technologies fait que la modernité s'invite aussi au Bhoutan. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de questionner notre propre modèle de développement et de voir si ce modèle très technique ne nous mène pas droit dans le mur. Vous allez me dire, mais quelle réflexion sur le CCFD avec le Bhoutan ? L'exemple nous montre une réflexion autour du bonheur national brut. Et cela renvoie à l'encyclique Laudato Si. Le pape nous rappelle que la question de l'environnement et du réchauffement climatique concerne tous les pays pauvres comme les pays riches. Mais il rappelle aussi que les pays pauvres doivent avoir, je cite, c'est au numéro 172 de l'encyclique Laudato Si. Les pays pauvres doivent avoir comme priorité l'éradication de la misère et le développement social de leurs habitants, bien qu'ils doivent analyser le niveau de consommation scandaleux de certains secteurs privilégiés de leur population et contrôler la corruption. Ils doivent aussi, peut-être, développer des formes moins polluantes d'énergie. Et donc, le pape propose qu'il y ait une attention portée aux pays les plus pauvres. Mais il pose aussi la question des décisions sur la gestion des océans, c'était au numéro 174, sur les prises de décisions pour inverser la tendance au réchauffement global, Et puis, il pose la question du dialogue en vue des politiques nationales et locales. Parce que nous sommes tous responsables de cette planète. Je cite, c'est au numéro 177. Face à la possibilité d'une utilisation irresponsable des capacités humaines, planifier, coordonner, veiller et sanctionner sont des fonctions impératives de chaque État. Comment la société prépare-t-elle et protège-t-elle son avenir dans un contexte d'innovation technologique? Quel droit établit des règles de comportement acceptables à la lumière du bien commun? Quel cadre politique et institutionnel qui soit là, pas seulement pour éviter les mauvaises pratiques, mais aussi pour encourager les bonnes pratiques, pour stimuler la créativité qui cherche de nouvelles voies, pour faciliter les initiatives personnelles et collectives? Eh bien, on trouve au bouton, justement, cette recherche, ou en tout cas cette réflexion, pour trouver de nouvelles voies, pour faciliter des initiatives, même si ce n'est pas forcément la panacée. Et cela m'amène à vous faire part de cet article de Fin et Développement Magazine qui montre que la France n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'elle souhaite. Alors que les députés ont voté des mesures de transparence fiscale pour lutter contre l'évasion des multinationales, le gouvernement en a décidé autrement. L'affaire est complexe. Vous savez que la législation française se fait dans un va-et-vient entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et le 4 décembre, la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires se réjouissait de l'adoption d'une mesure historique. Dans le cadre du projet de finances rectificatif 2015, les députés avaient adopté une mesure de transparence obligeant les entreprises françaises à rendre publiques des informations sur leurs activités. Ceci dans tous les territoires où elles sont implantées. Vous travaillez dans tel pays, vous payez les impôts dans le pays correspondant. Une mesure qui d'ailleurs n'est pas révolutionnaire, puisque aussi au niveau européen, on travaille à cette réflexion, parce que si chacun d'entre nous voit ses revenus, ses pensions, ses retraites, ses salaires, etc., déclarés directement à l'administration fiscale, il n'en va pas de même des sociétés. Donc, la mesure est prise. Les sénateurs n'ont pas suivi les députés. Ils ont rejeté l'amendement, mais comme le texte revient en seconde lecture à l'Assemblée, normalement la transparence fiscale est adoptée par 28 voix contre 24. C'est alors, je cite l'article de Fin et Développement Magazine, c'est alors le branle-bas de combat au gouvernement qui demande une interruption de séance, fait pression sur les députés, rappelle en pleine nuit quelques parlementaires. Le texte dit aux garde-vous politiques, là je vous laisse le soin de choisir. La transparence fiscale n'aura pas lieu. L'amendement annulant le précédent est voté dans la foulée à 25 voix contre 21. C'est-à-dire qu'il y a un coup de force de l'exécutif contre la transparence fiscale. Ce qui existe dans les pays des tiers-monde et contre lequel on s'élève, eh bien dans certains cas, cette transparence fiscale que nous souhaiterions et que nous souhaitons pour les pays des tiers-monde, afin qu'ils aient des ressources et qu'ils ne soient pas privés des ressources fiscales qui leur sont dues, eh bien, dans notre propre pays, cela n'est pas toujours mené. Mais enfin, ça n'est peut-être qu'un mauvais moment à passer, puisque au niveau européen, une mesure similaire est en train d'être débattue. Donc on peut espérer que ce qui a été raté en France pourra être réussi grâce à l'Europe. En tout cas, on voit que la question du développement ne se pose pas que dans des pays les plus pauvres, elle se pose aussi chez nous, et qu'il y a à côté du développement économique aussi une question de développement éthique, de responsabilité sociale et morale. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. Cela nous concerne tous. Réfléchissons-y pendant ce temps de carême.